Bon, si vous voulez bien, on va commencer. C'est donc l'avant-dernière séance et je voudrais aujourd'hui passer donc les deux leçons d'aujourd'hui à discuter de la manipulation du mouvement d'une particule atomique. Alors d'abord, qu'est-ce qu'on entend par particule atomique? Ici, je considérerais un atome neutre, une molécule, un ion, un électron. Parce qu'effectivement, tous ces systèmes ont été étudiés. Et comment peut-on contrôler le mouvement d'une telle particule? Bien sûr, au moyen de forces qui agissent sur elle. Alors, si c'est une particule chargée, comme un ion ou un électron, il est bien sûr simple d'utiliser la force de Lorentz, QE plus V vectoriel B. Si la particule est neutre, comme un atome ou une molécule neutre, elle n'a pas de charge. Et donc, le terme suivant dans l'interaction, c'est le couplage d'un gradient de champ électrique couplé à un moment dipolaire électrique ou un gradient de champ magnétique couplé à un moment dipolaire magnétique. Et enfin, une dernière catégorie de forces qu'on peut envisager, ce sont des forces qui résultent du transfert d'impulsion de photons vers des atomes. Et c'est ce qu'on appelle les forces radiatives. Alors, pourquoi manipuler des atomes, des particules atomiques? En fait, il y a deux grands buts. Le premier but, on veut confiner les particules dans une petite région de l'espace, de manière à les observer pendant un temps très long. C'est ce qu'on appelle le piégeage. Ou on veut encore diminuer la dispersion d'impulsion de ces particules, c'est-à-dire augmenter la longueur de cohérence spatiale, qui est importante, par exemple, pour l'interférométrie. Alors, dans le cours 9 de ce matin, donc le premier cours de ce matin, je vais introduire les méthodes générales de manipulation, sans entrer dans les détails, en donnant les grandes idées. Et puis, les cours suivants, celui de ce matin de 11h, puis les deux de la semaine prochaine, seront consacrés aux applications et aux perspectives ouvertes par ces méthodes. Donc, aujourd'hui, d'abord, je vais, dans ce cours 9, commencer par l'étude des forces radiatives, résultant de l'échange de quantités de mouvement entre photons et atomes, puis parler des pièges, pièges pour particules chargées, pièges pour atomes neutres utilisant des forces de gradient, et pièges utilisant la pression de radiation. Ensuite, je parlerai du refroidissement, la diminution de la dispersion d'impulsion, les méthodes de refroidissement générales par force de friction qui amortissent la vitesse, comme le refroidissement Doppler ou le refroidissement Physis, et enfin le refroidissement par état noir, le cas des atomes neutres, le refroidissement subrecul, le cas des ions de refroidissement par des bandes latérales. Et c'est la semaine prochaine, à propos des gaz quantiques dégénérés, que j'introduirai une autre méthode de refroidissement qu'on appelle le refroidissement évaporatif. Donc je commence par les forces radiatives et par un rappel des résultats du calcul semi-classique de ces forces. Pour une étude plus détaillée, je vous renvoie au livre Processus d'interaction entre atomes et photons, le paragraphe 5C2, où ces calculs sont présentés en détail. Ici, je ne présenterai que les idées générales. Alors, je me limite d'abord au cas d'un atome à deux niveaux, S fondamental et excité, bien localisé dans l'onde laser, et initialement immobile au point R. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bien localisé? Ça veut dire que sa longueur de cohérence, H bar sur delta P, la dispersion des impulsions, est beaucoup plus petite que la longueur d'onde du laser qui représente l'échelle de variation spatiale de l'onde lumineuse qui agit sur lui. Alors, cette condition peut être aussi écrite delta P plus grand que H bar sur lambda L, laser, c'est-à-dire H bar delta P plus grand que H bar K. Donc la dispersion d'impulsion de l'atome doit être plus grande que l'impulsion d'un photon. Et en élevant au carré, ça veut dire aussi que la température KBT delta P carré sur 2m est plus grande que KBT recul H bar 2 K2 sur 2m. De même, deuxième condition que je suppose remplie, on peut montrer que le temps caractéristique d'évolution des variables externes, comme la position ou la vitesse du centre de masse, c'est H bar sur E recul, où E recul c'est H bar 2 K2 sur 2m. Et je vais supposer que ce temps des variables externes est beaucoup plus grand que le temps gamma moins 1, la durée de vie de l'état excité, qui caractérise le temps d'évolution des variables internes. Alors, cette condition exprime que quand l'atome se déplace, avec ce temps caractéristique, les variables internes qui évoluent beaucoup plus vite peuvent s'adapter instantanément aux variables externes. Elles peuvent suivre adiabatiquement les variables externes. Cette condition peut encore s'écrire E recul égale H bar 2 K2 sur 2m, beaucoup plus petit que H bar gamma. Donc, je suppose que je regarde une raie atomique dont la largeur H bar gamma est beaucoup plus grand que l'énergie de recul. Alors, si on fait ces hypothèses, on peut calculer analytiquement, obtenir des expressions analytiques donnant la vitesse de variation de l'impulsion moyenne du centre de masse, c'est-à-dire la force moyenne qui agit sur lui. Et cette force moyenne s'exprime en fonction de quantités relatives à l'onde laser, qui sont le gradient de la phase ou le gradient d'amplitude, puisque le champ laser est caractérisé par son amplitude et sa phase, et en fonction de quantités caractérisant l'état de l'atome, qui sont les solutions stationnaires des équations de bloc optique pour un atome immobile au point R. Alors, qu'on fait un tel calcul, donc exposé en détail dans cette référence, on trouve que la force moyenne qui agit sur l'atome est la somme de deux forces, force dissipative plus force réactive. Alors, la force dissipative a une expression qui est la suivante, moins h bar oméga 1, v stationnaire gradient phi. Phi, c'est la phase de l'onde laser au point R où se trouve l'atome, donc ça c'est le gradient de la phase au point où se trouve l'atome. Oméga 1, c'est la fréquence de Rabi caractérisant le couplage atome laser au point R, donc c'est proportionnel à l'amplitude du champ laser, et V stationnaire, qui est égal à 1 sur 2i sigma Fe moins sigma EF, élément non diagonaux de la matrice densité entre l'état excité E et l'état fondamental F, en valeur stationnaire, et on peut montrer que cette quantité, ça représente la composante du dipôle atomique qui oscille en phase, en quadrature, excusez-moi, avec le champ laser qui la pilote. Donc le champ laser met en mouvement le dipôle atomique, et ce dipôle atomique répond avec une composante en phase et une composante en quadrature, et V, c'est la composante en quadrature. Alors, si le champ laser est une onde plane, E0 cosinus oméga LT moins KR, avec une amplitude constante, on voit à ce moment-là que la phase, c'est moins KR, c'est oméga LT plus phi, donc phi, c'est égal à moins KR, donc le gradient de la phase, c'est moins K, et on obtient cette expression pour la force dissipative en utilisant la solution stationnaire V stationnaire des équations de bloc optique. La force dissipative est égale à h bar k, gamma sur 2, oméga 1 carré sur 2 sur oméga l moins oméga 0 carré plus gamma 2 sur 4 plus oméga 1 carré sur 2. Vous reconnaissez ici le désaccord oméga l moins oméga 0 qu'on appelle en général delta entre la fréquence du laser oméga l et la fréquence atomique oméga. La force réactive, elle, a une expression qui est la suivante. Au lieu d'être proportionnel au gradient de la phase, L est proportionnel au gradient de la fréquence de Rabi, donc au gradient d'amplitude, et elle est proportionnelle à U stationnaire, qui est 1 sur 2 sigma FE plus sigma EF en régime stationnaire, qui est la composante du dipôle atomique en phase avec le champ laser. Donc vous voyez, il y a une symétrie, force dissipative, gradient de phase, composante en quadrature du dipôle, force réactive, gradient d'amplitude, composante en phase du dipôle atomique. Si on remplace U stationnaire par la solution des équations de bloc, on obtient cette expression, moins h bar, oméga moins oméga 0 sur 4, gradient d'oméga 1 carré sur ce dénominateur d'énergie qui est le même que tout à l'heure. Et la force réactive, elle a un certain nombre de propriétés qu'on peut rappeler ici. D'abord, elle n'existe que s'il y a un gradient d'amplitude. Si on a une onde plane unique, a une phase, une amplitude constante partout, donc il n'y a pas de gradient d'amplitude. Donc c'est une force qui n'existe que si l'onde laser est une superposition de plusieurs ondes planes, de manière à avoir un gradient d'amplitude. Deuxième propriété, elle est proportionnelle au gradient de oméga 1 carré, comme oméga 1 est proportionnel à l'amplitude du champ laser, donc oméga 1 carré est proportionnel à l'intensité, donc c'est une force qui est proportionnelle au gradient d'intensité laser, et à cause du signe moins qui est là, on voit que si oméga L moins oméga 0 est négatif, ceci est positif, et la force attire l'atome vers les hautes intensités, si on est désaccordé vers le rouge, alors qu'elle attire l'atome vers les basses intensités si on est désaccordé vers le bleu, oméga plus grand qu'oméga 0. Enfin, on voit qu'en fonction du désaccord, cette force varie comme oméga moins oméga 0 sur oméga moins oméga 0 carré plus quelque chose, et donc une courbe de dispersion, alors que la force dissipative varie comme une courbe d'absorption. C'est là l'origine du nom, force réactive, force dissipative. Alors, l'interprétation physique de ces deux forces est très claire, en particulier la force dissipative. La force dissipative, on peut la comprendre de la manière suivante. Lorsqu'un atome est éclairé par une onde laser et qu'il absorbe un photon, h bar k, il gagne l'impulsion du photon absorbé à cause de la conservation de l'impulsion totale. Donc, il gagne l'impulsion, de la même manière qu'une cible qui reçoit un projectile gagne l'impulsion du projectile. L'atome monte dans l'état excité, il n'y reste pas un temps infini, il reste un temps de l'ordre de la durée de vie, il retombe dans l'état fondamental en émettant un photon, mais les propriétés de symétrie de l'émission spontanée sont telles que la probabilité d'émettre un photon dans une direction et dans la direction opposée sont égales. Donc, si en moyenne sur plusieurs cycles, la perte d'impulsion due à l'émission spontanée est nulle, en moyenne. Donc, au cours d'un cycle, l'impulsion moyenne ne provient que du photon absorbé et elle vaut alpha k. Maintenant, si on veut calculer l'impulsion moyenne gagnée par seconde, c'est-à-dire la force ce n'est rien d'autre que dp sur dt, donc l'impulsion moyenne gagnée par seconde, c'est l'impulsion moyenne gagnée par cycle que multiplie le nombre moyen de cycles par seconde, et ça c'est la force moyenne qui agit sur l'atome. Alors maintenant, le nombre moyen de cycles par seconde, c'est aussi le nombre moyen de photons émis spontanément par seconde, c'est donc aussi égal au taux de fluorescence gamma à partir de l'état excité que multiplie la probabilité d'être dans l'état excité, c'est-à-dire la population stationnaire de E. Donc le taux, le nombre de photons émis par seconde, c'est gamma fois sigma EE stationnaire. Et quand on remplace dans cette expression sigma EE stationnaire par la solution des équations de Bloch, on trouve la même expression que j'ai donnée tout à l'heure. Donc la force dissipative, c'est tout simplement l'impulsion moyenne gagnée par seconde lors de l'absorption de photons par l'atome. Et à saturation, quand l'intensité est suffisante pour égaliser les populations fondamentales excitées, sigma EE stationnaire tend vers une limite qui est 1,5, et la valeur maximale de la force dissipative, c'est h bar k gamma sur 2. Alors, ordre de grandeur, si au lieu de calculer la force, on calcule l'accélération, ou la décélération maximale qui peut susceptible d'être communiquée à l'atome, il faut diviser f dissipative maximum par m, et on obtient cette formule pour a maximum, h bar k sur m gamma sur 2, et on reconnaît dans h bar k sur m la vitesse de recul d'un atome qui absorbe un photon. Donc v recul qui multiplie gamma sur 2. Alors au point de vue ordre de grandeur, ça veut dire qu'à chaque cycle, la vitesse de l'atome change d'une quantité égale à v recul. Dans le domaine optique, v recul est petit, de l'ordre du centimètre par seconde. C'est 3 cm par seconde pour le sodium qui absorbe une raie jaune, un photon jaune. C'est 3 mm par seconde pour le césium. Donc c'est une quantité qui est petite devant les vitesses d'agitation thermique qui sont de l'ordre du kilomètre par seconde. C'est la raison pour laquelle, disons, dans la plupart du temps, on néglige l'effet de recul. Je vous ai parlé dans un cours précédent de la prouesse qu'a constitué en 1975, je crois, l'observation du doublé de recul par absorption saturée par Christian Bordet et John Hall. Donc ce n'est pas un effet facile à mettre en évidence dans le domaine optique. Bien sûr, dans le domaine nucléaire, c'est beaucoup plus important. Les rayons gamma ont un h bar k beaucoup plus grand et ça devient important. Donc c'est un effet tout petit. Mais si on multiplie cette petite vitesse, 10 moins 2 mètres par seconde, par gamma sur 2, gamma peut atteindre 10 puissance 8 photons par seconde, on obtient une accélération qui est de l'ordre de 10 puissance 6 mètres par seconde carré, c'est-à-dire 10 puissance 5 fois l'accélération de la gravité. Donc c'est une force énorme. Un atome de sodium dans un faisceau laser résonant est subi à une accélération ou une décélération de 100 000 fois G. Et ça permet de comprendre pourquoi il est possible d'arrêter un jet atomique par ce qu'on appelle cette force de pression de radiation. Le jet atomique et le faisceau laser résonnant se propagent en sens opposé. Si on part d'une vitesse initiale de 1 km par seconde, avec une décélération de 10 puissance 6 mètres par seconde carré, les atomes sont arrêtés en 1 milliseconde, et ils parcourent une distance qui est de l'ordre de V02 sur 2A max, qui est de l'ordre de 0,5 mètres. Donc dans un laboratoire, des distances de l'ordre du mètre ou de 2 mètres, on peut arrêter un jet atomique. En fait, il y a une difficulté importante ici, c'est que au fur et à mesure que les atomes sont ralentis par la pression de radiation exercée par le faisceau laser, leur vitesse change et l'effet Doppler du faisceau laser par rapport au jet atomique change la fréquence de résonance et la force de pression de radiation diminue parce qu'on n'est plus accordé à résonance avec la fréquence atomique. Alors, il y a une solution très, très ingénieuse qui a été proposée par Philippe Metcalfe et Prodan au début des années 80, qui consiste à placer les atomes dans un solénoïde à enroulement variable, de manière à créer un champ magnétique dans cette direction qui varie avec la distance. Et à ce moment-là, on a en plus un effet Zeeman qui dépend de la position, et le profil du champ est calculé de manière que, au fur et à mesure que les atomes sont ralentis, la variation de la fréquence du laser due à l'effet Doppler, de la fréquence apparente du laser due à l'effet Doppler, est compensée par la variation de fréquence atomique due à l'effet Zeeman. Et c'est ce qu'on appelle un ralentisseur Zeeman. Et ça marche très bien. Je vous donne ici une photo qui est extraite d'un des articles de Bill Phillips, où on voit On reconnaît ici, c'est la sortie de l'appareil, et ça c'est de la lumière parasite, et cette trace que vous voyez ici, c'est le jet atomique qui est arrêté, on voit les atomes qui sont arrêtés ici, on voit la fluorescence des atomes qui sont arrêtés par la pression de radiation et ils retournent en direction opposée. Il y a aussi, bien sûr, une autre solution qui est possible aussi, qui est de balayer la fréquence du faisceau laser, qui est facile maintenant avec des lasers d'iode, pour rester à résonance sur la fréquence atomique. L'interprétation de la force réactive est un peu plus subtile. Elle n'explique aucun échange d'énergie entre l'atome et le faisceau laser, puisque la composante en face du dipôle, à laquelle la force réactive est proportionnelle, n'absorbe pas d'énergie sur le faisceau laser. Par contre, il peut y avoir des échanges d'impulsions dus au processus suivant. Comme je vous l'ai dit, la force réactive n'existe que si l'onde laser est une superposition de plusieurs ondes planes, K1, K2, KI, KJ. L'atome peut très bien absorber un photon dans l'onde KI, oméga KI, et le rémettre de manière simulée dans une autre onde plane de même fréquence oméga, mais d'impulsion de vecteur d'onde KJ opposé, de KJ différent. Alors, dans un tel processus stimulé, l'énergie du champ n'a pas changé, puisqu'un photon oméga a disparu et un photon oméga est apparu. Par contre, le champ a perdu une impulsion KI moins KJ qui multiplie H bar. Et cette impulsion qui a été perdue par le champ est donc forcément gagnée par l'atome. Donc l'atome a gagné au cours de ce processus une impulsion H bar KI moins KJ. Donc la force radiative peut être interprétée en termes de photons comme une force de redistribution où les photons passent d'une onde à l'autre, des ondes qui constituent l'onde incidente, par des processus rarement stimulés. Mais alors, on se pose tout de suite la question, et ça c'est une question qu'on se pose immédiatement, pourquoi la distribution se fait de KI vers KJ et non pas de KJ vers KI? Dans les deux sens, ça donne des échanges d'impulsions de signes opposés, et on a l'impression à ce moment-là que si l'atome peut gagner une impulsion dans un sens, il va perdre exactement la même impulsion dans l'autre sens, il ne doit pas y avoir de force. La raison, c'est que ce processus rarement stimulé est un processus cohérent. Il dépend de la phase relative des ondes laser au point où se trouve l'atome. Et pour le comprendre, j'essaie de donner l'image suivante. Je vais prendre un cas particulièrement simple où j'ai deux ondes planes, de sens opposés, K et moins K. Et je me place en un point de l'axe Zn où les deux ondes sont en quadrature. C'est en ce point, quand c'est en quadrature, que le gradient d'intensité est maximum, le gradient d'amplitude est maximum. Si je suis un nœud ou un ventre de l'onde stationnaire, l'amplitude ne change pas au premier ordre quand je me déplace par rapport à ce maximum ou à ce minimum. Donc je me place en un point où les champs E1 et E2 sont en quadrature, et je dessine ces champs E1 et E2 dans le plan complexe. Alors c'est un plan à deux dimensions, plan complexe, voilà E1, voilà E2, c'est des champs qui sont en quadrature. Voilà la réticence totale E. Et comme je vais raisonner uniquement sur U, U est une composante qui est en phase avec E. Si par exemple, elle peut aussi être en opposition de phase, si je change le désaccord d'un signe vers l'autre, la composante en phase va changer de signe. Bon, supposez qu'elle est en phase avec E, et j'appelle U1 et U2 les composantes de U qui sont en phase avec E1 et en phase avec E2. Alors, si je regarde maintenant E2, et si je regarde la composante U2, elle est en phase avec E2, et comme elle est en phase avec E2, elle n'échange pas d'énergie avec E2. Par contre, U2 est en quadrature avance avec E1. Et quand un dipôle est en quadrature avance avec un champ, il absorbe de l'énergie. Donc U2, qui est en quadrature avance avec E1, absorbe sur E1 une énergie proportionnelle à U2 fois E1. Regardons maintenant U1. U1 est en phase avec E1, donc il n'absorbe pas d'énergie sur E1. Mais U1 est en quadrature avec E2, mais en quadrature retard. Donc U1 émet dans E2 une énergie proportionnelle à E2 U1. Donc vous voyez que U2 absorbe de l'énergie sur E1, proportionnellement à E1 U2, et U1 émet de l'énergie dans E2, proportionnellement à U1 E2. Et un petit raisonnement de triangle semblable montre immédiatement que E1 U2 est égal à E2 U1. Donc vous voyez bien que l'échange d'énergie totale est nul, ce qui est absorbé dans une onde est mis dans l'autre, mais vous voyez que le sens dans lequel l'absorption se fait dépend du fait que U1 est en retard par rapport à E2 et U2 est en avance par rapport à E1. Ça dépend donc des phases relatives de E1 et E2 au point où se trouve l'atome. Donc c'est un processus cohérent. Il ne faut pas raisonner en probabilité de transition. Il faut raisonner de cette manière. Une autre manière encore plus simple de comprendre la force réactive, c'est de prendre le modèle de l'atome habillé et de tracer en fonction de la position sur une droite qui traverse le faisceau laser, les niveaux habillés, 1N et 2N, qui résultent du couplage de la transformation des niveaux non perturbés, EN et FN plus 1, sous l'effet du couplage. Alors, en dehors du laser, j'ai les états non perturbés. Dans le laser, à l'intérieur du laser, j'ai les états habillés, 1N et 2N. Et j'ai dessiné deux cas, suivant que oméga L est plus grand que oméga 0 ou oméga L plus petit que oméga 0. Si oméga L est plus grand qu'oméga 0, en dehors du laser, c'est l'état Fn plus 1 qui est au-dessus de En, puisque cet état a une énergie, comme il y a un photon laser de plus, il y a oméga L moins oméga 0, donc l'état Fn plus 1 est l'état le plus élevé, alors que si oméga L est plus petit qu'oméga 0, l'état Fn plus 1 est en dessous de En. Alors, à l'intérieur du laser, donc l'atome a une certaine probabilité d'être dans cet état et dans celui-là, et vous voyez que s'il est dans cet état, il subit une force de gradient qui le pousse dans cette direction. S'il est dans cet état, il subit une force de gradient qui le pousse dans cette direction. Mais vous voyez que, à ce moment-là, les populations ne sont pas égales, parce que c'est l'état habillé qui se raccroche à l'état Fn plus 1, qui contient la plus grande contamination de l'état Fn plus 1, donc la plus petite contamination de l'état En, qui est instable, c'est donc lui qui va être le plus peuplé. C'est l'état qui se rapproche le plus de l'état fondamental, qui va être plus peuplé que l'état qui se rapproche le plus de l'état excité. Donc cette population va être plus grande que celle-là, et par conséquent, cette force va l'emporter. Donc l'atome va être éjecté des régions, en moyenne, des régions d'une densité maximale. Par contre, si oméga est plus petit qu'oméga 0, c'est cet état qui va être plus peuplé, et c'est cette force qui va l'emporter sur celle-là, donc l'atome va être attiré dans les régions de haute intensité. Et donc ceci a été étudié par Jean Dalibard et moi-même en détail dans cet article, et on a également une interprétation très simple et quantitative des processus de fluctuation, parce que dans la cascade radiative de l'atome habillé, l'atome change aléatoirement de niveau, 1 ou 2, et par conséquent, sa force change de signe de manière aléatoire. Elle a en valeur moyenne une valeur non nulle, qui est soit dirigée vers l'extérieur, soit vers l'intérieur, mais elle fluctue toute sa valeur moyenne, et cette petite image permet de comprendre très simplement l'origine des fluctuations de la force réactive. Voilà, j'en ai fini avec la première partie, je passe maintenant donc à une deuxième partie qui est le piégeage. Et d'abord le piégeage des particules chargées. La chose la plus simple qu'on puisse imaginer, c'est d'appliquer un champ électrique, un potentiel électrostatique à une particule chargée pour la piéger en un point de l'espace. On se heurte tout de suite au fait qu'un potentiel électrostatique en dehors des charges satisfait à l'équation de Laplacien V égale 0 et qu'un tel potentiel électrostatique n'a pas de minimum. Si par exemple je prends un potentiel quadripolaire, c'est 2z2 moins x2 moins y2, de manière à avoir le Laplacien égale 0, je m'aperçois que le potentiel attire l'atome le long de l'axe z au point 0 à l'origine, alors qu'il est expulsant dans les directions x et dans les directions y. Et les surfaces équipotentielles de ce potentiel sont des nappes d'hyperboloïdes. Alors, une première manière de résoudre cette difficulté, c'est d'ajouter un champ magnétique. Ici, j'ai dessiné un système d'électrons qui reproduit ce potentiel avec deux électrodes coupelles, deux nappes d'hyperboloïdes et une autre électrode en forme de ronde serviette. Et à ce moment-là, vous voyez que ces surfaces sont équipotentielles et le potentiel à l'intérieur ici a bien cette forme. Si la particule a une charge positive et si je charge ces deux électrodes positivement par rapport à celle-là, le mouvement de la charge positive dans cette direction va être stable. Par contre, il va être divergent dans ces directions-là. On ajoute alors un champ magnétique B le long de l'axe Z, le long de cet axe de symétrie, et à ce moment-là, le mouvement de cyclotron autour de ce champ magnétique, si le champ magnétique est suffisamment fort, peut empêcher la particule de quitter l'axe Z dans le plan XOY. Et ça stabilise le mouvement dans le plan XOY. Et ça, c'est ce qu'on appelle un piège de Penning. Je l'ai étudié en détail dans le cours du Collège de France de l'année 84-85, et il est possible de trouver une expression analytique aussi bien pour les équations classiques que pour les équations quantiques du mouvement. On peut calculer en détail le spectre des niveaux d'énergie d'une particule dans un tel potentiel. Une autre méthode qui a été utilisée, imaginée par Wolfgang Paul, c'est ce qu'on appelle le piège de Paul, qui, au lieu d'ajouter un champ magnétique, consiste à ajouter au potentiel statique entre l'électrode anneau et l'électrode coupelle un voltage alternatif de fréquence oméga élevé, qui fait exécuter donc aux atomes un mouvement haute fréquence, car ils sont soumis à cause de ce voltage alternatif à un champ qui est de la forme E de R cosinus oméga t, avec un champ E de R dont l'amplitude, qui est le gradient de V, croît linéairement avec la distance à l'origine. Donc, les électrons effectuent un mouvement de vibration forcé à la fréquence oméga, avec une énergie cinétique dont la moyenne sur une période de vibration vaut Q2 et 2 sur 4m oméga 2. Et comme E est une fonction linéaire de la distance à l'origine, E carré est une fonction quadratique, donc cette énergie cinétique de vibration croît quadratiquement avec la distance à l'origine. Et on peut montrer que si oméga est suffisamment élevé, cette énergie U de R joue le rôle d'un potentiel effectif. On appelle ça la force pondéromotrice, et ce potentiel, à ce moment-là, est un potentiel attractif qui va attirer l'atome vers l'origine. Alors, cette hypothèse que oméga est très grand permet de faire un calcul perturbatif de cet effet de la force pondéromotrice. Un calcul complet peut être fait, et il est exposé en détail dans le cours 85-86. Il y a des plages de valeurs des paramètres pour lesquels le mouvement de la particule est stable. À ce moment-là, le mouvement de la particule est la superposition d'un mouvement lent, entre guillemets, et d'un mouvement de vibration rapide à la fréquence oméga. Alors, on passe maintenant des particules chargées aux particules neutres, il faut passer à des forces de gradient. On peut considérer maintenant les forces de gradient pour piéger, et la première chose à laquelle on peut penser, c'est les pièges magnétiques. Ces pièges magnétiques utilisent l'interaction W de R entre le moment magnétique mu de l'atome ou de la molécule et un champ magnétique B de R qui varie dans l'espace. Et cette énergie de couplage donne naissance à une force qui est moins le gradient de W de R. Alors ceci n'est valable que si le champ magnétique est suffisamment grand pour que la fréquence de l'armor de l'atome autour du champ B de R au point R soit rapide devant la vitesse de variation du champ vu par l'atome lorsqu'il se déplace dans ce champ inhomogène. Il faut que l'atome aille suffisamment lentement pour que son spin puisse suivre adiabatiquement les variations de direction du champ magnétique, pour que la projection de mu sur B de R reste constante. À ce moment-là, on a un potentiel qui agit sur l'atome, qui est donné par cette formule. Et le problème, c'est que si on prend les équations de Maxwell, les équations de Maxwell impliquent que le module d'un champ magnétique statique ne peut pas être maximum en un point d'espace. C'est impossible, c'est incompatible avec les équations de Maxwell. Donc il est impossible de piéger les atomes au voisinage d'un point où le champ magnétique serait maximal. Par contre, le champ magnétique peut avoir un module qui passe par un minimum lorsqu'on se déplace dans l'espace, et à ce moment-là, on peut piéger les atomes dont le moment magnétique est antiparallèle à B au voisinage d'un minimum de module de B. L'exemple le plus simple qu'on puisse trouver de piège magnétique pour un atome neutre, c'est un piège quadripolaire formé par deux bobines de courant parcourues par des courants qui circulent en sens inverse. À ce moment-là, le champ est bien sûr nul par raison de symétrie au centre de ces deux bobines, et il est minimum en ce point. Le module est minimum en ce point. L'inconvénient d'un tel piège, c'est que si l'atome suit une trajectoire qui passe par le point O, ou au voisinage du point O, la direction du champ change rapidement quand l'atome se déplace, et à ce moment-là, il ne peut plus le suivre adiabatiquement. À ce moment-là, il y a ce qu'on appelle des transitions de Majorana qui se produisent et qui mettent l'atome dans un niveau magnétique non piégeant. À ce moment-là, il est éjecté du piège. Une solution pour résoudre cette difficulté a été proposée par Pritchard, et elle s'inspire des pièges de Yoffe, et elle consiste à prendre quatre conducteurs linéaires, ici, parcourus par des courants qui vont en sens opposé deux à deux, de sorte que si on prend l'axe de ces quatre conducteurs, sur l'axe, le champ magnétique est nul, et quand on se déplace de l'axe, le champ magnétique croît en module linéairement avec la distance à l'axe de symétrie. Donc il y a un piégeage dans le plan perpendiculaire au fil, aux axes du fil, un piégeage par rapport à l'origine. Et on ajoute à ces cette configuration de quatre conducteurs, deux bobines parcourues par des courants dans le même sens, les deux bobines étant écartées au-delà de la position d'Helmholtz, de manière que le champ qu'on se déplace le long de cet axe passe par un minimum. Et à ce moment-là, ce champ-là assure le confinement dans cette direction. Alors, l'avantage d'un tel dispositif est que le piège apparaît à un endroit où le champ magnétique n'est pas nul et où il a une direction bien définie, donc il y a un axe de quantification bien défini à l'endroit où les atomes sont piégés, et que par conséquent, quand l'atome se déplace dans ce piège, les variations de direction du champ sont suffisamment lentes pour que l'approximation adiabatique soit valable. Alors, bien sûr, ça c'est une disposition, il y en a beaucoup d'autres, et donnons toujours la même idée, et c'est pour plus de détails, je vous renvoie au cours du Collège de France 96-97. Il y a enfin un autre piège qui a été imaginé dans l'équipe de Cornell, qu'on appelle le piège TOP, Time Orbiting Potential, et dont l'idée est la suivante, est une idée très astucieuse. On prend un piège quadrupolaire. Alors, un piège quadrupolaire, ça donne donc des lignes de champ de ce type-là, et on ajoute dans le plan XOY un champ statique, petit b, qu'on fait tourner à la fréquence oméga. Autrement dit, le zéro du champ quadrupolaire est en ce point maintenant, et le point où le champ quadrupolaire s'annule tourne à cette fréquence oméga dans le plan XOY. Et si on fait tourner suffisamment rapidement ce dispositif, le champ moyen vu par les atomes n'a plus de zéro. On peut montrer voilà, qu'il a une forme parabolique, et on a éliminé la difficulté liée aux pertes par transition non adiabatique quand l'atome passe au voisinage du zéro. Donc voilà la publication où ce piège a été démontré pour la première fois. Je voudrais mentionner que c'est dans un piège TOP qu'a été réalisée la première observation de la condensation de Bose-Einstein du rubidium 87 par l'équipe de Cornell et Weinmann. Et je voudrais juste une petite remarque. Si on a un piège quadrupolaire avec un zéro au centre, il y a une autre manière d'empêcher les atomes d'arriver en ce point. Et c'était une méthode utilisée par Wolfgang Ketterle au MIT qui consiste à appliquer un faisceau laser focalisé, désaccordé vers le bleu, de façon que le foyer soit au voisinage du zéro du piège quadrupolaire. À ce moment-là, vous savez qu'un laser désaccordé vers le bleu donne un potentiel répulsif, les atomes sont éjectés de la région du maximum d'intensité, et cette force répulsive empêche les atomes d'arriver au zéro du piège quadrupolaire, où les transitions non adiabatiques sont redoutables. Et là, c'est dans ce potentiel, c'est dans un piège donc quadrupolaire avec un bouchon laser, on appelle ça un bouchon laser au zéro, qu'a été observée la première condensation du sodium, en la même année, en 1995. Je passe maintenant, toujours pour des atomes neutres, aux interactions d'un gradient de champ électrique avec un moment dipolaire électrique. Si on prend, donc on a comme tout à l'heure, l'interaction entre un moment dipolaire moins D et un champ électrique inhomogène. Alors, si le système a un moment dipolaire permanent, qui est le cas par exemple de molécules hétéropolaires comme CO, NH3, H2O, on a une force qui est tout à fait analogue à la force de magnétique qui agit, un gradient de champ magnétique agissant sur un moment dipolaire magnétique. C'est comme la force de Stern-Gerlach, et on peut séparer, cette force a déjà été utilisée dans toutes les expériences de G moléculaire pour préparer des états bien définis. Très récemment, donc l'année dernière, une équipe hollandaise de Meijer en Hollande a pu utiliser cette force de manière astucieuse pour décélérer un jet de molécules. Donc je vous renvoie à cette référence qui est intéressante, qui est donc une décélération de molécules par un gradient de champ électrique. Si on prend des atomes, maintenant les atomes, eux, n'ont pas de moment dipolaire électrique permanent. Par contre, s'ils sont soumis à un champ électrique, par exemple alternatif, ils ont une réponse, ils ont un moment dipolaire induit avec une polarisabilité qui dépend de la fréquence, qu'on appelle la polarisabilité dynamique, et le champ électrique de fréquence oméga interagit avec ce dipôle induit, et on a une énergie d'interaction, une énergie de polarisation qui dépend de la distance et qui peut donner naissance à une force. Si on est au voisinage de la résonance, cette force, ce n'est rien d'autre que la force réactive que j'ai décrite tout à l'heure. Ce n'est rien d'autre que la force réactive liée au gradient d'amplitude. Alors, les pièges utilisant les forces radiatives. Enfin, j'arrive maintenant au dernier point. J'ai donc étudié les forces sur les particules chargées, les forces sur les particules neutres résultant de gradients, de champs électriques ou magnétiques. Et maintenant, je regarde les forces utilisant les pièges utilisant les forces radiatives. D'abord, les pièges utilisant les forces réactives ou dipolaires, qui est l'interaction avec un gradient de champ électrique du dipôle induit, mais au voisinage de résonance. À ce moment-là, la force réactive que j'ai décrites tout à l'heure, on peut montrer, mathématiquement, que c'est, on peut aussi l'écrire moins gradient U, où U a cette expression, h bar oméga n moins oméga 0 sur 2, le logarithme de cette expression 1 plus oméga 1 carré sur 2 sur ce dénominateur. Alors, on voit que si on a un désaccord rouge, oméga est plus petit que 0, ceci est un puits de potentiel, et c'est un puits de potentiel dans lequel les particules peuvent être piégées. Alors, attention, on continue à avoir des processus d'émission spontanée, et très souvent, dans les pièges utilisant les forces dipolaires au voisinage de résonance, on veut éviter tous les processus d'émission spontanée susceptibles, comme je l'ai montré la semaine dernière, de détruire la cohérence spatiale. À ce moment-là, il faut que le U, la profondeur du puits, soit beaucoup plus grande que U sur H-bar, soit beaucoup plus grand que gamma prime, le taux d'émission, le taux d'absorption de photons par l'atome dans le puits. Et on peut montrer que ce taux gamma prime est gamma oméga 1 carré sur 4 oméga L moins oméga 0 carré. Il faut donc que le désaccord oméga L moins oméga 0, quand on compare ces deux quantités, il faut qu'il soit très grand devant gamma. Donc il faut se désaccorder suffisamment loin de la résonance pour avoir donc des forces réactives qui n'introduisent pas de dissipation. En fait, tous les dispositifs de piégeage utilisant les forces réactives que j'ai décrits au cours 4, les pièges laser, les miroirs pour atomes neutres, les cavités gravitationnelles, toutes ces pièges utilisent en fait la force réactive et peuvent être interprétés également en termes de déplacement lumineux dépendant de la position. Ce n'est rien d'autre qu'un déplacement lumineux dépendant de la position. Maintenant, pièges utilisant les forces dissipatives. Il est possible aussi d'obtenir des pièges utilisant les forces dissipatives. Et je donne par exemple le principe donc, d'un tel piège à une dimension sur une transition atomique entre un niveau 0 dans l'état fondamental et un niveau plus 1 J égale 1 dans l'état excité. On suppose que l'atome est placé dans un gradient de champ magnétique le long de l'axe Z, de sorte que les sous-niveaux Zeeman M égale plus 1 et M égale moins 1 varient linéairement avec Z avec des pentes opposées. Et on suppose que cet atome est excité par deux faisceaux laser, sigma plus et sigma moins, se propageant en sens opposé et désaccordé vers le rouge, oméga L plus petit qu'oméga A. Alors, vous voyez immédiatement sur cette figure que le faisceau laser sigma plus, qui ne peut exciter que ce niveau à cause de la conservation du moment cinétique, va être résonant en ce point, alors que le faisceau sigma moins, qui ne peut exciter que le niveau M égale moins 1, va être résonant en ce point. Alors, en ce point, c'est cette force qui va être importante devant celle-là. En ce point, c'est cette force qui va être importante devant celle-là, et au point 0, les désaccords sont les mêmes, et les deux forces se balancent, se compensent exactement. Donc, on a une force qui, quand on se déplace le long de l'axe Z, est nulle ici, est dirigée vers 0 quand je suis vers la droite, et dirigée vers 0 de ce côté-là quand je suis vers la gauche. Donc, on a une force de rappel vers l'origine, on a donc une force de piégeage. Alors, ça, c'est un dispositif qui a été suggéré par Jean Dalibard en 1986, et on l'appelle maintenant le piège magnéto-optique MOT, MOT, Magneto-Optical Trap. Alors, je l'ai expliqué ici sur une configuration à une dimension. Il fonctionne également à trois dimensions, comme ça a été la première démonstration du MOT a été faite sur un piège à trois dimensions par l'équipe, une collaboration de l'équipe de Steve Chu et Dave Pritchard. Il fonctionne également en cellule, alors ça c'est extrêmement intéressant parce que en cellule, on n'a pas besoin de faire un ralentisseur Zeeman, on arrive à piéger une certaine partie de la description de vitesse dans la cellule même. Il fonctionne pour des transitions atomiques plus compliquées qu'une transition 0,1, et qui est le cas par exemple des atomes avec une structure hyperfine, comme les atomes alcalins. Il conduit à des volumes de piégeage plus grands que les pièges laser, ce qui peut être intéressant pour plusieurs types d'expériences. Aussi, comme on est désaccordé vers le rouge, nous verrons tout à l'heure que il y a également un refroidissement qu'on appelle le refroidissement Doppler, donc c'est un piège qui combine à la fois le piégeage et le refroidissement laser. Et on peut dire que maintenant, le MOT est un outil de base de la physique des atomes ultrafroids. Voilà, j'en ai fini avec le piégeage, et je passe maintenant au refroidissement, c'est-à-dire à la diminution de la dispersion d'impulsion. Le mécanisme le plus simple de refroidissement, c'est le refroidissement laser Doppler qui a été suggéré par Ernst Schallow d'un côté, Wayne Landemel de l'autre, l'un pour les atomes neutres, l'autre pour les ions, en 1975. Il a fallu attendre près d'une décennie pour que les premières expériences de refroidissement apparaissent ensuite. Alors, le refroidissement Doppler est extrêmement simple à comprendre. on a deux faisceaux laser de sens opposé. J'explique ici à une dimension. Agissant sur un atome qui a la vitesse V sur, le long de cet axe. Et les deux faisceaux laser ont la même intensité et ont une fréquence mu L plus petite que la fréquence de l'atome mu A. Alors, si l'atome est au repos, V égale 0, les deux fréquences apparentes n'ont pas d'effet Doppler, donc elles sont les mêmes, comme elles ont la même intensité, les deux forces de pression de radiation sont égales et opposées, et elles se compensent. La force totale est nulle. Si l'atome se déplace vers la droite, il va à la rencontre de cette onde, en sens opposé, donc la fréquence apparente de cette onde va augmenter par effet Doppler. Comme elle est plus petite que nu1, si elle augmente, elle va se rapprocher de nu1, plus de photons vont être absorbés, la force va augmenter. Par contre, vis-à-vis de cette onde, l'atome s'en éloigne, donc la fréquence va diminuer par effet Doppler, elle était plus petite que nu1, elle va être encore plus petite, et donc moins de photons vont être absorbés, la force va diminuer. Donc l'effet Doppler introduit donc un déséquilibre entre les deux forces de pression et de radiation, et c'est la force de pression de radiation opposée qui l'emporte. Donc on a une force qui, pour une vitesse suffisamment faible, est proportionnelle à V avec un signe moins, avec un coefficient alpha qui est un coefficient de friction. Donc on a réalisé un milieu visqueux pour l'atome. La vitesse est amortie avec une force qui est proportionnelle à la vitesse avec un signe moins, un coefficient de friction. Et c'est la raison pour laquelle, disons, je crois que la première observation faite dans les années 85 par Steve Chu, l'efficience donnait le nom de mélasse optique à un tel dispositif. C'est comme un pot de miel où simplement le miel est remplacé par la lumière. En fait, le raisonnement que je vous ai donné là est un petit peu superficiel. J'ai ajouté les forces de pression de radiation des deux ondes en négligeant tout effet d'interférence entre les deux. Et on peut montrer qu'on fait un calcul semi-classique de la force moyenne, que les effets des deux ondes ne peuvent être ajoutés indépendamment qu'à basse intensité. Et en fait, le résultat que j'ai donné, la somme des deux pressions de radiation, ne s'applique pas à la force en un point donné, mais à la moyenne de la force sur une longueur d'onde du laser. Donc c'est uniquement à basse intensité et après une moyenne spatiale qu'on peut considérer qu'il est légitime d'ajouter les forces de pression de radiation indépendamment des deux ondes. Aux intensités plus élevées, c'est plus vrai, il faut absolument tenir compte du fait que les deux ondes interfèrent et que leur action ne peut pas être ajoutée indépendamment, qu'il y a des termes d'interférence entre les effets des deux ondes, et ça c'est des effets qui ont été étudiés par Kazantsev aux États-Unis, Gordon et Ashkin. Et le résultat du calcul, c'est qu'à forte intensité, lorsqu'on moyenne sur une longueur d'onde, les prédictions sont opposées. La moyenne spatiale de la force, pour oméga est plus petit que oméga 0, pour un désaccord rouge, au lieu d'être une force qui est une force de friction, c'est une force d'antifriction. Elle peut s'écrire F égale alpha V avec alpha positif. Donc, alors que si on prend un désaccord bleu, oméga est plus grand que oméga 0, la force devient une force de friction. Autrement dit, la force dépendant de la vitesse change de signe quand on augmente l'intensité du faisceau laser. Alors, c'est un peu troublant, et je voudrais maintenant vous donner une interprétation simple en termes d'atomes habillés de ce phénomène. Alors, pour cela, je me limite ici d'abord à un atome à deux niveaux, un niveau fondamental, un niveau excité, F et, dans une onde stationnaire intense, avec oméga L plus grand que oméga A. Voilà d'abord les niveaux non perturbés, Fn plus 1 et En, avec bien sûr Fn plus 1 au-dessus de En, si le désaccord est le bleu, puisque cet état-là a une énergie oméga L moins oméga fois plus élevée que celui-là. Quand on a deux ondes laser se propageant en sens opposé, on a une onde stationnaire avec des nœuds et des ventres d'intensité, si les deux ondes ont la même amplitude. Il y a donc des nœuds, N, et des ventres, V, avec une distance entre nœuds et ventres qui est égale à lambda sur 2. Maintenant, si je regarde, ça c'est les niveaux non perturbés, si je regarde les niveaux perturbés, les niveaux habillés vont être séparés, vont s'écarter, à cause du couplage qui est entre les deux, et en un nœud, ils vont coïncider avec les niveaux non perturbés, en un ventre, ils vont avoir l'écart maximal possible, puisque l'écart est égal à racine carrée de oméga 1 carré plus delta 2. Donc, on a des niveaux qui ont des formes de fuseaux, avec un écart maximal au ventre, et l'écart non perturbé au nœud. Quelle est la largeur des niveaux maintenant? Quelle est la largeur des niveaux habillés 1n et 2n? Alors, en un nœud n, les niveaux habillés coïncident avec les niveaux non perturbés. L'état F a une stabilité parfaite, il y a un état fondamental. Donc sa largeur radiative est égale à 0. L'état E, ici, a une largeur radiative qui est gamma, la largeur radiative de l'état excité. Donc on a 0 ici, gamma ici. C'est pour ça que j'ai dessiné un niveau infiniment fin ici, un niveau avec une certaine largeur gamma en ce point. En un ventre, si oméga 1, la fréquence de Rabi, est grande devant le désaccord oméga L moins oméga 0 et devant gamma, les deux largeurs vont être partagées, l'instabilité de l'état excité va être répartie uniformément dans les deux états excités, les deux états 1 et 2, les deux états 1 et 2 vont être des combinaisons linéaires symétriques et antisymétriques des états non perturbés, et donc les deux niveaux vont avoir gamma sur 2. Alors, si vous regardez cette formule, si vous regardez ce petit schéma, vous voyez que si je me déplace sur un niveau habillé ici, la largeur du niveau va être maximale au sommet de la colline, minimale ici, maximale ici, et sur ce niveau, je vais avoir gamma ici, c'est grand, gamma sur 2 plus petit, gamma c'est grand, donc vous voyez que quel que soit le niveau habillé dans lequel je me trouve, quand je me déplace dans cette direction, la largeur va être la plus grande, donc la probabilité d'émettre un photon va être la plus grande au sommet d'une colline. Donc, quel que soit le niveau habillé, la probabilité d'émettre spontanément un photon va être maximale au sommet de la colline. Donc, si je regarde ici ce qui se passe pour un atome donné, avec trois multiplicités de niveaux habillés, En, 2N, En plus 1, 2N plus 1, En moins 1, 2N moins 1, vous voyez que l'atome va se déplacer, par exemple, sur ce niveau, et il va émettre préférentiellement quand il est au sommet d'une colline, tomber ici, par exemple, et puis il va remonter, et puis il va émettre préférentiellement au sommet d'une colline. Donc vous voyez que l'atome, en général, monte plus souvent des collines qu'il en descend. Donc, on réalise ici une réalisation atomique du mythe de Sisyphe. Et évidemment, quand l'atome, si l'atome monte plus de collines qu'il en descend, il va perdre plus d'énergie potentielle, il va être ralenti plus en moyenne, et par conséquent, il va t'épuiser, sa vitesse, son énergie va diminuer. C'est ce qu'on a appelé, on lui a donné le nom d'effet Sisyphe à cause de cette image. Cet effet a été observé dès les années 86, donc dans notre équipe, et l'expérience était la suivante, on avait un jet de césium qui se propageait dans cette direction, on éclairait ce jet avec une onde laser, sigma plus, rétro-réfléchie, donc ça donnait deux ondes sigma plus se propageant en sens opposé. Et comme on faisait du pompage optique, on mettait tous les atomes dans le niveau MF le plus grand, et donc on avait l'équivalent d'un système à deux niveaux. Et avec un fil chaud ici, on détecte la distribution de position des atomes en ce point, qui est aussi la distribution des impulsions le long de cette direction. Et on voit ici, cette courbe-là, la première courbe, petit a, c'est la distribution de position, donc de vitesse du faisceau atomique non perturbé. Quand on ajoute un faisceau laser désaccordé vers le bleu, 30 de plus MHz, on obtient donc une courbe plus fine, ce qui montre qu'on a diminué la dispersion d'impulsion dans cette direction avec un désaccord bleu. Alors que si c'était un effet Doppler, ce serait un désaccord rouge qui conduirait à un affinement. Par contre, si on désaccorde le laser vers le rouge, on obtient une force d'antifriction et on voit que le faisceau atomique est éclaté en deux parties, les plus grands ici. Alors, si on revient maintenant à l'effet Doppler, au refroidissement laser Doppler, on peut en faire une théorie quantitative. Je vous ai parlé de la force de friction, qui est une force qui amortit la vitesse. Maintenant, l'atome ne s'arrête pas d'émettre des photons dans toutes les directions, et à chaque émission spontanée, à chaque cycle, il recule dans une direction aléatoire. Donc, son mouvement dans l'espace des vitesses est une marche au hasard, résultant donc d'une compétition entre un phénomène de friction, qui est l'effet refroidissement laser Doppler, et une diffusion d'impulsion liée à l'émission spontanée, liée au fait que les photons d'émission spontanée se produisent dans toutes les directions possibles et à tous les instants possibles, qui va chauffer le système avec un coefficient de diffusion D. Et de la même manière qu'on peut refaire exactement la théorie d'Einstein, du mouvement brownien, de théorie qui date de 1905, et montrer qu'il y a une température d'équilibre vers laquelle on va tendre, qui est donnée par D sur alpha, ou D le coefficient de diffusion, alpha le coefficient de friction. Et le résultat de cette analyse, c'est que la température atteinte est supérieure ou égale à une limite TD qu'on appelle la limite Doppler, et qui est atteinte quand le désaccord est égal à moins gamma sur 2, où gamma est la largeur naturelle. Et donc on a une limite Doppler qui est donnée par KBTD égale H bar gamma sur 2, avec TD égale 240 microkelvin pour le sodium, 125 microkelvin pour le césium. Pour le détail de tous ces calculs, je vous renvoie au cours 83-84, où le calcul de cette limite est fait en grand détail. Alors, comment mesurer la température de ces atomes très froids? C'était pas évident au début. Et la situation a changé quand, je crois, dans l'équipe de Bill Philippe et Hal Metcalf, on a mis au point la méthode de Tanvol, qui est la suivante. On a la mélasse, où les atomes sont refroidis, et puis, à un instant donné, on coupe brusquement les faisceaux de piégeage et les faisceaux de refroidissement. Maintenant, les atomes tombent, formant une douche, et on regarde le temps au bout duquel ils passent dans un laser sonde qui est situé à une certaine distance en dessous. Et ce temps, cette distribution de temps, dépend d'abord de l'accélération due à la gravité qu'on connaît, elle dépend de la distribution initiale de position qu'on peut déduire d'une photo de la mélasse, elle dépend évidemment de la distribution initiale de vitesse qu'on suppose gaussienne avec une certaine température. Et en fitant le signal expérimental à cette prédiction théorique à partir d'une certaine température, on peut déduire la température de manière relativement précise. Et les résultats expérimentaux obtenus dans les années 88 dans l'équipe de Bill Phillips ont montré que la température était 100 fois plus basse que la température prévue. Donc le mécanisme n'était pas le mécanisme Doppler. Il y avait un autre mécanisme qui était en jeu. Voilà par exemple les résultats obtenus par cette équipe. Ça, la courbe en très plein ici, c'est la prédiction de la théorie du refroidissement Doppler qui montre une limite pour le sodium de l'ordre de 250 microkelvin atteinte pour un désaccord de 5 MHz, moins gamma sur 2, gamma pour le sodium c'est 10 MHz. Voilà les points expérimentaux. Il y a deux choses qui apparaissent ici. D'abord, ils sont beaucoup plus petits, les températures sont beaucoup plus basses que le minimum prévu ici. D'autre part, la variation avec le désaccord n'est pas du tout celle prévue par la théorie du refroidissement Doppler. Donc il y a deux points qui ne marchent pas. Et donc je vais maintenant vous donner donc, une explication basée sur une généralisation de l'effet Sisyphe à basse intensité. Alors, l'explication, donc je la donne très rapidement ici, je ne rentre pas dans les détails. L'explication, c'est que l'effet Doppler, le refroidissement Doppler que j'ai expliqué tout à l'heure, c'était pour une transition entre deux niveaux non dégénérés. En fait, dans l'état fondamental, il y a plusieurs sous-niveaux Zeeman pour les alcalins. Si je prends par exemple un niveau Zeeman de moment significant 2000, il y a le spin vers le haut et le spin vers le bas, deux états de spin. Dans une onde laser stationnaire, l'intensité et la polarisation sont modulées spatialement avec une période lambda sur 2. Et par conséquent, les déplacements lumineux, comme on n'est pas en résonance dans le refroidissement laser, il y a des déplacements lumineux, les déplacements lumineux sont modulés spatialement, et ils sont en général différents pour les deux sous-niveaux Zeeman. De même, comme la polarisation change d'un point à l'autre, le sens du pompage optique de l'état plus vers l'état moins ou de l'état moins vers l'état plus sont aussi modulés spatialement. On n'est pas désaccordé trop loin de résonance, donc il y a toujours des transitions de pompage optique qui s'effectuent. Alors, on réalise une situation où j'ai dessiné ici les deux niveaux F spin vers le haut, F spin vers le bas, qui sont modulés spatialement en opposition de phase, et des transitions de taux de pompage optique, sigma plus, sigma moins, sigma plus du niveau moins vers le niveau plus, sigma moins du niveau plus vers le niveau moins. Et vous voyez qu'on peut réaliser une situation où les deux modulations des déplacements lumineux et des taux de pompage optique sont corrélés de manière que l'atome monte une ligne de potentiel, est transféré à l'autre sous-niveau Zeeman, donc au fond d'une vallée, par pompage optique, puis remonte une colline de potentiel, et ainsi de suite. On voit ici de nouveau l'effet Sisyphe, mais dans l'état fondamental, cette fois-ci, non pas entre deux niveaux habillés résultant de deux sous-niveaux des mêmes hyperfins de très grande durée de vie. Et on peut montrer que ce mécanisme est très efficace, il peut conduire au microkelvin. Plus précisément, on peut évaluer un ordre de grandeur de la température à laquelle on peut parvenir. En effet, à chaque le cycle Sisyphe, l'atome perd une énergie qui est grosso modo la distance entre les deux courbes de potentiel, la profondeur des puits liée au déplacement lumineux, que j'ai appelé U0, c'est le déplacement lumineux de l'état fondamental. Son énergie diminue, jusqu'au moment où elle est tellement faible que l'atome n'a plus la force de gravir une colline de potentiel jusqu'en haut et qui se trouve piégé dans une de ses vallées. Et à ce moment-là, sa température est de l'ordre, je vais faire un raisonnement qualitatif ici, sa température que j'appelle TS, T6, et de l'ordre de KBT Sisyphe, de l'ordre de U0. Donc ce petit raisonnement très simple montre que la température vers laquelle on tend va être de l'ordre de grandeur de U0. Or, J'ai étudié dans cours 4 U0, hein, le déplacement lumineux, et nous avons vu que pour un désaccord suffisamment grand, le déplacement lumineux varie comme le carré de la fréquence de Rabi, divisé par le désaccord, oméga le moins oméga 0. Et il y a eu des mesures très précises de TS qui ont permis de confirmer cette prédiction, c'est que la température est proportionnelle à l'intensité et inversement proportionnelle au désaccord. Ça explique la courbe du groupe de Bill Phillips montrant que la température diminue quand on augmente le désaccord. Elle diminue. Elle diminue comme 1 sur oméga S moins oméga 0. Alors, à basse intensité, le déplacement lumineux est beaucoup plus petit que la largeur naturelle gamma du niveau de cité. Et ceci permet de comprendre pourquoi les températures sismiques qui sont de l'ordre du déplacement lumineux, U0, sont beaucoup plus petites que les températures Doppler qui sont de l'ordre de gamma. Alors, il y a quand même un paradoxe, on peut se dire, s'il suffit à ce moment-là de diminuer l'intensité pour aller de plus en plus bas, si je vais à intensité nulle, je vais avoir une température nulle et c'est complètement absurde, il n'y a plus de refroidissement. En fait, il y a un phénomène qu'on a négligé, c'est que lors des processus d'émission spontanée, quand l'atome au sommet d'une colline, il absorbe un photon et retombe dans une vallée, il y a un recul aléatoire qui se produit dans une direction aléatoire, et ça augmente son énergie cinétique d'une quantité qui a pour échelle l'énergie de recul R^2 K^2 sur 2L. Et le refroidissement Sisyphe ne peut marcher que si le gain dû à U0, la diminution d'énergie dans un cycle Sisyphe U0, est plus grande que le gain d'énergie lié au recul. Donc, ce petit raisonnement montre que les températures obtenues par le refroidissement Sisyphe restent toujours supérieures à quelques et recul. Donc, on trouve une limite vers le bas qui est de l'ordre de et recul. Et en fait, on peut montrer à ce moment-là que dans les conditions optimales du refroidissement Sisyphe, les atomes sont si froids qu'ils sont piégés dans des niveaux de vibration du potentiel périodique, c'est-à-dire dans des bandes d'énergie les plus basses du potentiel lumineux périodique. Alors, j'arrive maintenant au dernier point. On a alors l'impression à ce moment-là que dans tous les schémas usuels de refroidissement laser qui sont basés sur une force de friction comme le refroidissement Doppler, le refroidissement Sisyphe, les cycles de fluorescence ne s'arrêtent jamais et que l'atome ne s'arrête jamais de reculer. À chaque photon qu'il émet spontanément, il recule de manière aléatoire. Donc on a l'impression que il est impossible d'éviter ce recul et que cette quantité delta P, la dispersion de delta P ne peut pas être inférieure à H bar K, où H bar K est l'impulsion transférée par un seul processus de recul. Et on a l'impression qu'il y a une limite fondamentale qui est KBT recul donné par KBT recul sur 2 égale et recul égale H bar 2 K2 sur 2M. On a l'impression qu'il y a une limite inférieure fondamentale en dessous de laquelle on ne peut pas descendre et qui est de l'ordre de quelques centaines de nanokelvins pour les alcalins, quelques microkelvins pour les l'hélium métastable excité sur la transition de 3S1 de 3P. En fait, il est possible de refroidir les atomes en dessous de T recul en utilisant non plus une force de friction, mais un piège dans l'espace des vitesses. On va mettre dans l'espace des vitesses un piège dans lequel les atomes vont tomber et qu'ils ne vont plus quitter. Et si on attend suffisamment longtemps, la région de ce piège dans lequel les atomes restent piégés peut devenir aussi étroite qu'on veut. Et à ce moment-là, on peut arriver à des températures aussi basses que l'on veut. C'est ce qu'on appelle le refroidissement subrecul. Alors, le principe est représenté ici. Pour y arriver, ce qu'on fait, c'est la chose suivante. On réalise une situation où la probabilité de subir un cycle de fluorescence, d'absorber un photon, dépend de la vitesse et s'annule en V égale 0. Alors, vous allez voir tout de suite après qu'on peut réaliser des situations de ce type. Alors, qu'est-ce qui se passe? Si on a un atome qui a une vitesse nulle, il n'absorbe plus de photons, il est là, et donc il est protégé du recul, il va rester infiniment très froid. Si on a un atome qui a une vitesse non nulle, qui est ici, à ce moment-là, cet atome lui, va absorber de la lumière, et puis quand il va la réémettre, son impulsion va soit augmenter, soit diminuer, de manière aléatoire. Si elle diminue et que l'atome tombe dans V égale 0, à ce moment-là, il va rester piégé. Et donc, vous voyez, au fur et à mesure que le temps progresse, les atomes vont diffuser le long de l'axe de V ici, et puis au fur et à mesure qu'ils tombent au voisinage de V égale 0, ils vont s'accumuler, et on va avoir une distribution d'atomes N de V qui va devenir de plus en plus étroite quand le temps d'interaction augmente. Et on peut montrer que plus long est le temps d'interaction θ, plus étroit est l'intervalle delta V dans lequel les atomes peuvent rester piégés pendant ce temps-là. Alors, il y a eu deux méthodes qui ont été proposées. Donc, une première dans notre équipe en 88, utilisant le piégeage cohérent de population sélectif en vitesse, velocity selective coherent population trapping, et quelques années après, des séquences alternées de transition rament stimulées, sélectives en vitesse, et suivies également de transition de pompage optique. Alors, je suis arrivé au bout, je vais passer rapidement sur juste expliquer les résonances OAS sélectives en vitesse, et passer juste expliquer le refroidissement des ions. Alors, je vous rappelle, dans la séance précédente, je vous ai parlé du piégeage cohérent de population, des résonances noires. Et vous rappelez que si on a un système à trois niveaux de ce type, F1, F2, et si on prend des transitions rarement stimulées, ω1, ω2, et si on est à un désaccord delta de la résonance rarement, si on trace la probabilité de, dans l'intensité, le taux de fluorescence en fonction de delta, le désaccord, on a ce qu'on appelle une résonance noire, la fluorescence s'arrête exactement pour delta égale 0. Donc ça ressemble beaucoup à la courbe qu'on a donnée tout à l'heure. La seule différence, c'est que ce qui apparaît ici, c'est pas la vitesse, c'est le désaccord delta. Alors, est-ce qu'on peut trouver un système permettant de remplacer cette courbe par une autre courbe équivalente où delta est remplacé par V? Alors, la réponse, là, c'est l'effet Doppler. C'est on utilise l'effet Doppler pour rendre delta proportionnel à V, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre deux faisceaux laser, ω1 et ω2 parallèles, on les prend sans s'opposer, par exemple, et à ce moment-là, les désaccords Doppler pour ces deux ondes sont opposés, et si ω1 moins ω2 est réglé pour être égal à ω01 moins ω02 pour V égale 0, c'est-à-dire si delta égale 0 pour V égale 0, alors pour V différente de 0, il faut remplacer ω1 par ω1 plus K1V, ω2 par ω2 plus K2V, et à ce moment-là, la différence entre les deux fréquences apparentes, c'est ω1 moins ω2, qui par définition est égal à ω01 moins ω02, plus K1 moins K2V. Alors, si K1 et K2 sont opposés, K1 moins K2 est de l'ordre de 2K1, on a à ce moment-là un désaccord qui est proportionnel à la vitesse. Bon, je vais passer rapidement sur le reste, je vous laisse les notes pour le regarder si vous êtes différé. Montrer la première courbe qui a été obtenue pour le refroidissement subrocul, montrer la généralisation à plusieurs dimensions, et je vais passer sur le refroidissement rarement subrocul, qui est aussi une autre manière de réaliser cette courbe de donnant la probabilité d'excitation en fonction de la vitesse s'annulant en V égale 0. Passer sur les statistiques de Lévy, je dis peut-être un mot là-dessus, parce que ça c'était assez amusant. En fait, la distribution des temps tau i passés par l'atome dans une petite région autour de V égale 0, on peut la calculer exactement, et on peut trouver que cette distribution des temps de piégeage est une distribution large. Elle a des ailes qui décroissent en loi de puissance. Et une loi de puissance suffisamment large pour que la valeur moyenne du temps de piégeage, et que bien sûr la dispersion de ce temps de piégeage soit infinie. À ce moment-là, on trouve une situation où les statistiques habituelles, qui sont basées sur le théorème de la limite centrale, ne peuvent plus être appliquées. Et pour essayer de comprendre ce qui se passait, on a eu une collaboration extrêmement structurée avec des physiciens de la physique statistique, comme Jean-Philippe Bouchot, et on s'est rendu compte que pour analyser un tel problème, c'était les statistiques de Lévy qui fournissaient le cadre théorique idéal pour comprendre ces processus. Et ça a été un exemple, je prends un exemple intéressant de développement en physique atomique, un exemple de problème physique qui a permis un rapprochement fructueux pour les deux parties entre physicien atomique et physicien statisticien. Et ça a été tellement fructueux d'ailleurs qu'on a été conduit à écrire un livre avec François Bardoux, Jean-Philippe Bougeot et Alain Spey, publié l'année dernière, qui s'appelle « Laser Cooling and Lévy Statistics, How Rare Events Bring Atoms to Rest ». En fait, les refroidissements subreculs que nous avons donc mis au point au laboratoire, qui est également généralisé par l'équipe de Steve Chu, permettent d'atteindre le nano-Kelvin. Et pour comprendre ce mécanisme de refroidissement, pour comprendre ses limites, pour comprendre les formes de ray, les formes de distribution auxquelles il conduit, les statistiques de Lévy se sont révélées extrêmement fructueuses. Elles nous ont permis d'obtenir des expressions analytiques pour toutes ces grandeurs physiques qu'il était sans espoir d'obtenir par les méthodes traditionnelles de l'optique quantique. Et il se trouve finalement que le refroidissement laser par résonance noire se trouve être un exemple particulièrement instructif, particulièrement simple d'application des statistiques de Lévy, montrant vraiment comment appliquer ces statistiques. Je voudrais, pour terminer, juste montrer ce transparent. et montrer qu'on a dans le refroidissement des ions une idée analogue qu'on appelle le refroidissement des ions par excitation de bande latérale résolue. Et à ce moment-là, l'idée c'est de placer les ions dans un niveau à partir duquel ils ne peuvent plus absorber de lumière, et qui est le niveau le plus bas dans le piège. Alors, l'idée est la suivante, on a un ion piégé avec un état électronique excité, un état électronique fondamental. Comme il n'y a pas de couplage entre les degrés de liberté internes et externes, les deux potentiels de piégeage sont les mêmes, que l'atome soit excité ou fondamental. Et il y a des niveaux de vibration, V égale 0, V égale 1, V égale 2, V égale 3, aussi bien dans l'état électronique fondamental que dans l'état électronique excité. Alors, on suppose qu'on est dans des situations où la largeur naturelle de l'état excité, gamma, est plus petite que la distance entre niveaux de vibration. On suppose donc qu'on est dans une situation où gamma E est beaucoup plus petit que oméga V, fréquence de vibration. Et alors, l'idée à ce moment-là, c'est d'exciter les atomes avec une fréquence laser accordée sur la fréquence de la bande latérale décalée vers le bas de oméga 0, fréquence atomique, moins oméga V. On excite par exemple V égale 2, V égale 1, V égale 1, V égale 0, V égale 3, V égale 2. Donc on excite des transitions delta V égale moins 1. Ça, c'est facile à faire. On règle la fréquence du laser à oméga E moins grand oméga V. Oméga 0 moins oméga V. Oméga 0 est la fréquence de la transition atomique libre, et oméga V est la fréquence de vibration. Donc on fait passer les atomes du niveau V égale 2 au niveau V égale 1, et après, les atomes vont retomber dans l'état fondamental. Mais vous vous rappelez que dans le premier cours, je crois, ou le cours numéro 2, je vous ai introduit ce que j'ai appelé, qu'on appelle maintenant la limite de Lambdicke. Si l'énergie de recul est petite devant l'énergie de vibration, à ce moment-là, les transitions les plus probables, c'est, en émission spontanée, c'est les transitions delta V égale 0. Donc, une fois que l'atome est dans l'état V égale 1, la plus grande probabilité, c'est qu'il retombe dans le niveau V égale 1 de l'état fondamental. Il peut aussi retomber, bien sûr, dans le niveau V égale 2 ou dans le niveau V égale 0, mais avec des probabilités beaucoup plus petites. C'est ce qu'on appelle la limite de Lambdicke. Alors, ce phénomène existe aussi à l'absorption, bien sûr, mais comme l'arrêt est très fin ici et qu'on a accordé le laser sur cette transition, même si la probabilité de transition V égale 2, V égale 1 est plus petite que la probabilité de transition V égale 2, V égale 2, on excite de manière résonante cette transition, et donc on porte préférentiellement l'atome de V égale 2 vers V égale 1. Et puis à partir de là, il va retomber préférentiellement de V égale 1, il va retomber dans V égale 1. Donc vous voyez, on est parti de V égale 2, et puis on est retombé dans V égale 1, préférentiellement. Et ensuite, on va aller de V égale 1 à V égale 0, et retomber dans V égale 0. Et ainsi de suite, les atomes vont tomber dans V égale 0, et dans V égale 0, l'excitation à oméga 0 moins oméga V n'est résonante vers aucun autre état, il se trouve piégé. Il n'y a plus de transition résonante partant de V égale 0, avec un laser accordé à la fréquence oméga 0 moins oméga V. Donc on a mis les atomes, tous les atomes dans le niveau V égale 0, on arrive à mettre, disons, une proportion considérable d'atomes dans le niveau de vibration le plus bas. Alors évidemment, il y a quand même une excitation non résonante qui se produit, et on peut calculer la limite vers laquelle on tend, mais si gamma E est très très grand, si gamma E est très très petit devant oméga V, à ce moment-là, on va avoir une très forte population d'atomes dans ce niveau-là. Donc on arrive à préparer un ion dans le niveau vibrationnel. Alors vous allez me dire, c'est pas facile de créer gamma E plus petit qu'oméga V, mais la réponse c'est différemment. À ce moment-là, si on a deux niveaux internes différents, spin vers le bas, spin vers le haut, les transitions rarement stimulées permettent de passer du niveau 1 vers le niveau 0 ici, si on accorde de manière convenable les fréquences de deux lasers. Et je vous ai expliqué, quand j'ai parlé de l'effet rarement stimulé, qu'il permettait d'obtenir l'équivalent d'un système à deux niveaux, mais où les deux niveaux, maintenant, F1 et F2, ont des durées de vie très très longues. Donc on peut réaliser une sorte de gamma E de très très petit. Et alors évidemment, à partir de ce niveau-là, par une absorption résonante, ici on est non résonant, hein, par une absorption résonante, on peut conférer une largeur à ce niveau, une largeur qu'on peut régler avec l'intensité de la lumière, et on peut faire retomber les atomes de niveau 0 ici, vers le niveau 0 ici. Et c'est par cette technique-là que le groupe de Wineland, à Boulder, est capable maintenant couramment de préparer des ions piégés dans le niveau vibrationnel le plus bas. Donc je vais m'arrêter là, et dans la séance suivante, à 11h, je vais parler des premières applications de ces atomes extrêmement froids. Donc je vous rappelle qu'ils ont des températures de l'ordre du micro-Kelvin pour le refroidissement Sisyphe et de l'ordre du nano-Kelvin pour le refroidissement Sibrecus.